VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde. Aujourd'hui, édition du jeudi 2 mars 2017, en direct de Washington, Idrissa Sidoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
En République démocratique du Congo, l'armée dit avoir tué 20 rebelles du mouvement du 23 mars depuis la fin du mois de janvier.
Au Mali, des jeunes se sont mobilisés depuis mardi pour s'opposer à l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou.
Les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU vont se rendre aujourd'hui au lac Tchad.
Angela Merkel au Caire aujourd'hui et à Tunis demain pour des discussions sur la Libye et l'afflux de migrants par la Méditerranée.
Ici aux États-Unis, le ministre de la Justice, Jeff Sessions, accusé, selon le Washington Post, d'avoir passé sous silence ses propres rencontres avec l'ambassadeur russe à Washington.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, l'armée a dit hier avoir tué 20 rebelles du mouvement du 23 mars et perdu 2 soldats lors de combats depuis la fin janvier dans l'est du pays. Des détails avec Anastasie Tudiech.
Pendant une conférence de presse hier à Goma, le général Léon Mouchalé, commandant des opérations militaires dans la province du Nord Kivu, a fait état de 20 morts chez les rebelles, 25 capturés et rendus, 2 soldats tués et 6 blessés dans les rangs de l'armée. Les affrontements ont eu lieu le 31 janvier, puis du 20 au 22 février sur 3 fronts, notamment à Matebe sur la colline de Songa et à Kitagoma à la frontière avec l'Ouganda. Kinshasa avait fait état, à la mi-janvier, de la présence d'anciens combattants du M23 vers Rutshuru, dans le nord-est du pays. Cette rébellion à dominante Tutsi a été battue en novembre 2013 par les FARDC, appuyée par les casques bleus après 18 mois de guérilla. Plusieurs centaines de ces combattants avaient alors trouvé refuge en Ouganda et ont été cantonnés dans la base militaire de Bianga. Un accord signé avec le gouvernement à Nairobi prévoyait leur retour au pays, mais il n'a jamais été appliqué.
Toujours en République démocratique du Congo, cette fois-ci au Maniema, attaque armée au quartier résidentiel des agents de Namoya Mining, une filiale de la compagnie orifère Banro Corporation. L'attaque a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi à Salambila, située à 375 km au sud de la ville de Kindu, dans le territoire de Kabambare. Précision de notre correspondant dans la région, Ernest Mouhero.
24 heures après cette attaque à Namoya, aucune information ne filtre du côté de Banro sur le bilan, mais des sources locales affirment que ces hommes armés non autrement identifiés ont investi vers 2 heures du matin le luxueux quartier résidentiel des agents de Namoya Mining, faisant au moins 5 otages en quittant le lieu. Ces assaillants auraient même tiré une balle sur un policier gradé, ajoutent les mêmes sources. La nouvelle dynamique de la société civile NDC condamne d'une part cette incursion et d'autre part estime que ces attaques armées répétitives contre des filiales de Banro Corporation traduisent un profond malaise au sein d'une partie de la population. D'autres sources pensent qu'il s'agit d'actes de sabotage aux ramifications non encore élucidées. Le président national de la NDC, Jean Chrysostome Kijana, craint que ces attaques soient de nature à décourager les investisseurs potentiels en RDC. Cette incursion armée suscite des interrogations dans l'opinion, étant donné qu'elle intervient à moins d'un mois d'une autre attaque, cette fois à Twangiza Mining, une autre filiale de Banro, établie à Luinja, au sud Kivu. Depuis l'implantation de Namoya Mining, une mine à ciel ouvert avec une usine de transformation de l'or, des mécontentements et manifestations ont pris corps au sein de certaines couches de la population locale, particulièrement les creuseurs artisanaux qui ont été déplacés de Namoya vers la localité de Matete. Ernest Mouero, Bukavu, VOA Afrique.
Au Mali, des jeunes sont mobilisés depuis mardi pour s'opposer à l'installation des autorités intérimaires à Tombouctou, reprochant au gouvernement de ne pas les avoir consultés. Des dizaines de jeunes armés ont occupé les locaux du Conseil régional de Tombouctou. Des explications avec le journaliste Yaya Tandina, joint hier soir à Tombouctou.
Des hommes armés ont encerclé carrément le conseil régional de Tombouctou devant abriter la cérémonie pour l'installation du président des autorités intérimaires. Nous, on a saisi automatiquement la coordination régionale des mouvements alliés à la personne de Diko qui nous a confirmé qu'effectivement ce sont leurs éléments. Et alors qu'eux, ils sont alliés de la CIEMA. Aujourd'hui, d'autres hommes aussi sont venus se joindre à eux qui disent que eux, ils sont de la plateforme. La confusion chez les populations est telle que aujourd'hui, on ne sait pas si la branche politique qui commande ou c'est la branche militaire? Sinon, comment est-ce que nous savons qu'au cours de la réunion extraordinaire du CSA, les trois régions ont été réparties entre le gouvernement, la CMA et la plateforme? Et que la plateforme aujourd'hui soit contre ces autorités intérimaires, j'ai dit que c'est une lutte pour les intérêts personnels.
Qu'est-ce qu'ils revendiquent clairement? Qu'est-ce qu'ils veulent?
Pour la plupart, ils disent qu'ils n'ont pas été associés, alors que nous savons qu'au début, on nous a dit que l'ensemble des signataires étaient autour de la table pour le choix des villes et ensuite dégager les dates pour les mises en place. Mais aujourd'hui, nous sommes étonnés sur le terrain que ces mouvements disent qu'ils n'ont jamais été associés pour quoi que ce soit.
Le journaliste Yaya Tandina, joint à Tombouctou par Bagassi Koura.
Au Nigeria, de nouveaux combats entre l'armée et le groupe djihadiste Boko Haram ont forcé 7000 personnes à fuir leur village et à venir se réfugier à Chibok. Claire Morin-Gibourg.
Entre le 25 février et le 1er mars, soit en moins d'une semaine, ce sont près de 4500 personnes qui sont arrivées dans la ville de Chibok, selon un rapport de l'OIM, l'Organisation internationale des migrations. Le 10 février dernier, c'est un groupe de 2000 personnes qui a fui le village de Kaya pour se réfugier dans la ville voisine de Damboa. Selon des représentants locaux de Chibok, les villageois ont commencé à fuir lorsque l'armée les a prévenus de l'imminence du nouvelle opération militaire d'envergure. Une situation très problématique car les villes sont déjà saturées par les nombreux déplacés qui ont fui les atrocités de Boko Haram. Plus de 2500 personnes étaient déjà réfugiées à Chibok et près de 55 000 à Damboa selon l'OCHA. La situation est presque similaire aux abords du lac Tchad où 8000 personnes ont afflué début février vers Monguno. Les humanitaires peinent à venir en aide au flot constant de déplacés à cause du conflit mais aussi par manque d'accessibilité à de nombreuses zones. L'OCHA estime que 5,1 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire dans tout le nord-est du Nigeria.
Et puis, les représentants du Conseil de sécurité de l'ONU vont se rendre aujourd'hui au lac Tchad. Ils cherchent ainsi à attirer l'attention sur une des plus graves crises humanitaires de la planète. Une crise qui combine famine, attaques djihadistes, changement climatique et mauvaise gouvernance.
Cette crise touche quelque 21 millions de personnes réparties dans quatre pays, le Nigeria, le Tchad, le Cameroun et le Niger. La visite des 15 ambassadeurs du Conseil de sécurité doit aussi ouvrir la voie à une action plus forte de l'organe exécutif de l'ONU pour tenter de résoudre une crise largement ignorée par la diplomatie mondiale quand les conflits en Syrie et au Soudan du Sud s'intensifient.
Visite d'Angela Merkel aujourd'hui au Caire et demain à Tunis pour des entretiens avec les présidents égyptiens Abdel Fattah al-Sissi et tunisien Béji Caïd Essebsi. Au centre des discussions de la chancelière allemande, stabiliser la Libye et endiguer l'afflux de migrants par la Méditerranée, deux thèmes profondément liés et cruciaux pour l'Union européenne.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Washington Post a rapporté hier que l'ex-sénateur Jeff Sessions, aujourd'hui ministre de la Justice de l'administration Trump, s'est entretenu à deux reprises avec l'ambassadeur russe à Washington pendant la campagne et a passé sous silence ses rencontres lors de son audition au Sénat. Selon le journal, Jeff Sessions et l'ambassadeur russe Sergei Kislyak se sont notamment parlé en privé en septembre dans le bureau du sénateur au sommet de la campagne présumée de cyberattaque russe dénoncée par les services de renseignement américains. La Maison-Blanche a dénoncé ce qu'elle a appelé une nouvelle attaque partisane des démocrates et M. Sessions lui-même a précisé qu'il n'a rien passé sous silence. On rappelle que le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Michael Flynn, a été contraint de démissionner pour avoir induit en erreur le vice-président Pence sur ses contacts avec l'ambassadeur russe.
En Irak, les combattants du groupe État islamique continuent d'opposer une résistance farouche aux forces gouvernementales engagées dans la reconquête de la partie ouest de Mossoul, bastion des djihadistes. Plus de 28 000 personnes ont fui les combats à Mossoul Ouest depuis le début, il y a 10 jours, de l'opération lancée par les forces irakiennes, appuyées par la coalition internationale anti-djihadiste sous commandement américain.
Des Kurdes syriens participeront à l'assaut pour reprendre au groupe État islamique la ville syrienne de Raqqa, a estimé hier le chef militaire de la coalition contre les djihadistes, le général américain Stephen Townsend. Le rôle que doivent jouer les Kurdes dans la bataille de Raqqa est un sujet de discorde entre les États-Unis et la Turquie. Ankara considère les milices kurdes YPG comme un groupe terroriste qui menace la sécurité nationale turque.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Filière or, des négociations ont débuté en vue d'un rapprochement entre Endeavour et Acacia. D'après Jeune Afrique, une fusion des deux compagnies aurifères entraînerait la création d'un poids lourd de l'extraction d'or. Installés dans des régions différentes, nous avons une stratégie semblable, alliant dépenses importantes d'exploration, sélection rigoureuse des projets développés et maîtrise des coûts d'exploitation, estime le directeur général d'Endeavour. Afrique-États-Unis, la loi obligeant les groupes miniers à la transparence est annulée. Les entreprises pétrolières et minières ne seront donc plus obligées de rendre public leur versement de fonds aux États. L'annulation de l'article 1504 du Dodd-Frank Act, plus connu sous le nom de « publier ce que vous payez », était voulue par le président américain Donald Trump. L'objectif de cette disposition était pourtant d'empêcher les groupes armés de se livrer au commerce illégal de minerais. 5 milliards accordés aux PME dirigées par des femmes en Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a procédé à la signature d'une convention de partenariat avec le groupe Banque Centrale Populaire du Maroc, indique Abidjan.net.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Voilà, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Suite de la tropicale Amissa Bongo au Gabon.
La troisième étape entre Mounana et Koulamoutou, longue de 157 km, elle a été remportée par le Biélorusse Stanislas Bascou de l'équipe Minsk Cycling Club. Il remporte cette étape devant un petit groupe d'échappés comprenant Thomas Vauclair de l'équipe Direct Energy qui termine quatrième. Au classement général, Stanislas Bascou s'empare du maillot jaune de leader.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
Ah, les Maliens ont passé un sale quart d'heure face à la Zambie, pays organisateur. Une défaite, 6 buts à 1 dans l'autre rencontre de ce groupe A. La Guinée s'est un peu repris avec un match nul, un but partout face à l'Égypte.
Coup de tonnerre au FC Barcelone, l'entraîneur va quitter le banc de touche dès la fin de saison.
Luis Enrique, en poste depuis 2014 et en fin de contrat en juin, a annoncé mercredi soir qu'il quitterait ses fonctions à la fin de la saison, justifiant son choix par l'usure d'un poste aussi exposé. Il a déclaré en conférence de presse après la victoire du Barça contre Rijon 6 buts à 1 « Je ne serai pas l'entraîneur du FC Barcelone la saison prochaine. La raison, c'est la manière dont je vis cette profession. Cela signifie pour moi très peu d'heures de repos et de déconnexion », a ajouté Luis Enrique, qui, on le rappelle, a remporté 8 titres sur 10 possibles en 2 saisons et demie avec Barcelone.
Victor Moses prolonge avec Chelsea.
L'international nigérian est désormais lié à Chelsea jusqu'en 2021. Cette saison, l'attaquant de 26 ans a marqué 3 buts lors de ses 25 matchs joués avec Chelsea. Il avait par ailleurs remporté en 2013 la Coupe d'Afrique des Nations avec les Super Eagles.
NBA, championnat de basketball nord-américain.
Et le pivot camerounais de Philadelphie, Joel Embiid, l'une des révélations de la saison, ne rejouera pas d'ici la fin de la saison régulière. Et ce, en raison d'une blessure au genou gauche. C'est ce qu'ont annoncé mercredi les Sixers, son club. Notre objectif prioritaire est de protéger la santé à long terme de Joel pour qu'il soit performant sur le terrain, a insisté Brian Colangelo, le président des opérations des Sixers. Embiid, 22 ans, n'est plus apparu en match officiel depuis le 27 janvier. Et son équipe, qui avait redressé la tête en janvier, a perdu 9 de ses 14 derniers matchs. Embiid a disputé 31 matchs avec des moyennes de 20,2 points, 7,8 rebonds et 2 contre et demi par match, ce qui en faisait jusqu'à sa blessure le principal prétendant au titre de meilleur rookie de la saison. Enfin, Idrissa, avec vous les résultats de la nuit en NBA.
New York Knicks 101, Orlando 90, Washington 105, Toronto 96, Dallas 95, Atlanta 100, Philadelphia 98, Miami 125, Denver 110, Milwaukee 98, Détroit 86, New Orleans Pelicans 109, Cleveland 99, Boston 103, Indiana 99, San Antonio 100, Minnesota 107, Utah 80.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idriss Assédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Bria, centre-est de la République centrafricaine, encore en proie à l'insécurité, la ville est entre calme et inquiétude. La présence des casques bleus de la MINUCA ne rassure pas les habitants. Conséquence, chacun assure sa sécurité à sa manière, nous dit notre correspondant Freeman Sipila.
Au centre de la ville, c'est un calme apparent. Les affrontements armés entre l'UPC et le FPRC, deux factions ex-sénéca rivales aux alentours de Bria, ont renforcé la crainte de la population. Personne ne sait à quel moment tout peut chambouler. Arthur travaille dans une ONG locale.
Là où on est, chacun prend ses dispositions pour ne pas être pris par qui que ce soit. Et donc, du coup, là, présentement, ce sont les groupes rebelles qui sont là et qui prennent contrôle de la ville. Bon, il ne faut pas trop d'exaction, mais on se méfie, quoi. Donc, la sécurité n'est pas vraiment au beau fixe. La piscose, ça existe de tout moment, parce que vous pouvez être là, vous sortez, il n'y a pas d'information, mais du coup, il y a une détonation et voilà.
Les casques bleus ne patrouillent que sur les grands axes. La police et la gendarmerie nationale n'existent que de nom, l'autorité de l'État, loin d'être une réalité, pour se protéger, la plupart des habitants sont armés de couteaux ou de fusils. Aboubakar Charfadine, étudiant déplacé à Bria.
C'est un comportement très déplorable de la part de la jeunesse centrafricaine qui se promène avec des couteaux. On ne sait pas avec quoi est-ce qu'ils veulent faire avec ces couteaux-là. Et là, je profite de cette occasion pour lancer un appel au gouvernement de responsabiliser les autorités, la gendarmerie et la police, de réprimer ces comportements-là. Parce que le fait pour une personne de se promener avec une arme blanche, un couteau, il peut commettre des crimes à tout moment. Et il est dangereux pour la population et la société.
Pour prévenir le danger, restaurer un climat sécuritaire apaisé et lutter contre l'incivisme, le conseil préfectoral de la jeunesse mène des campagnes de sensibilisation. Ibrahim Saleh Hamid est son président.
Nous avons reçu des formations plus sur le droit de l'homme, sur le civisme, etc. Automatiquement, on commence à faire une sensibilisation dans le quartier, échanger avec la jeunesse, surtout sur le civisme. On a pris le cas de notre mairie qui a été vandalisée pendant le dernier événement. Les matériaux des mairies qui ont été emportés au quartier. Nous avons demandé à nos frères jeunes, ceux qui détiennent devant eux ces matériels, de restituer ça en place. Et puis ceux qui connaissent qui détient ces matériels, de leur demander simplement vraiment ce matériel appartient à la population, de ramener en place afin que la mairie puisse vraiment fonctionner comme il se doit.
L'instabilité sécuritaire a paralysé l'administration publique. Tous les services de l'État, réhabilités et rééquipés par la communauté internationale, ont été pillés et saccagés durant les affrontements de novembre dernier entre l'UPC et le FPRC au centre de Bria. Freeman Sipila, Bria, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Tchad, 69 étudiants de l'université de N'Djamena ont été condamnés à un mois d'emprisonnement ferme. Ils avaient été arrêtés le samedi dernier pour avoir cassé la voiture du ministre en charge de l'enseignement supérieur en visite sur le campus universitaire. Ce dernier était accompagné de son homologue sénégalais. Les réactions à la condamnation des étudiants avec notre correspondant à N'Djamena, André Kotmajingar.
Le bureau de l'Union nationale des étudiants tchadiens UNET, section de N'Djamena, a décidé au cours d'une assemblée générale ce mercredi matin de la suspension des cours pour exiger la libération de leurs camarades. Tout est parti de l'organisation du Salon international de l'étudiant africain qui a eu lieu du 23 au 25 février 2017 à N'Djamena, salon boudé par les étudiants tchadiens. Ceux-ci ont trouvé injuste que le gouvernement tchadien, qui évoque la crise sociale pour ne pas payer les 6 mois d'arriéré de bourse, débloque de l'argent pour organiser une grande rencontre titre en leur nom sans les y impliquer. Pour eux, la visite des ministres tchadiens et sénégalais en charge de l'enseignement supérieur dans leur campus est une provocation. Pour l'un des avocats des étudiants arrêtés, Maître Alain Kagombe, cette condamnation est contraire à la loi de la République.
La condamnation des étudiants ne repose sur aucune base juridique. L'article 23 de notre code de procédure pénale est clair. On ne peut pas diviser la poursuite, mais dans le cas de l'espèce, c'est trois magistrats qui ont jugé l'affaire différemment. C'est scandaleux. Il faut que la justice soit de plus en plus intègre. Ils ont été condamnés à un mois ferme. On ne sait pas c'est quelle loi même qui a été appliquée. Puisque quand on parle de concours d'infraction, là, l'infraction la plus élevée, c'est la destruction des biens. Le minimum des peines, c'est 6 mois à 5 ans. Mais les 1 mois, là, ils ont trouvé où ils ont appliqué quelle loi, on ne sait pas. Personne ne peut dire qui a cassé le véhicule. Le droit pénal, il n'est pas comme ça. Ce qui vient de se passer, moi, je crois que c'est la plus grande injustice. Et en tant qu'avocat défenseur des droits de l'homme, je suis indigné.
Pendant que le bureau des lunettes entreprend des démarches pour la libération de leurs camarades arrêtés, d'autres étudiants très en colère s'organisent en petits groupes pour perturber les cours dans les établissements scolaires. C'est ainsi qu'à Walia, dans le 9e arrondissement, la police a tiré à balles réelles sur les manifestants, faisant une victime non étudiante, 18 blessés dont 3 graves et des arrestations. Témoignage de la copine de la victime.
Les policiers ont tiré et la petite a pris balle sur la tête. Il y a un qui l'a tiré encore sur moi. Je ne sais pas ce qui arrive aux policiers. Et je pleure ma copine. Que la justice soit faite et que le gouvernement ait quand même pitié de nous les pauvres. On a des diplômes mais il n'y a pas boulot. On est là en train de se débrouiller avec les oiseaux là, dans les cabarets, dans les bars. À cause de demi, la fille est partie.
Contacté par VOA Afrique, le ministre de l'enseignement supérieur, Makai Hassan Taïso, refuse de se prononcer sur cette affaire qui paralyse les activités académiques qui viennent à peine de démarrer après une longue grève de la plateforme syndicale revendicative. André Koduma Dingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h sur 24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Mali, le gouvernement et ses partenaires locaux ont démarré mardi par Kidal l'installation des autorités intérimaires. Ce jeudi, ce sera au tour d'autres villes du nord comme Gao. Ces installations font partie de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Pour une analyse, Bagasikoura a joint à Bamako le docteur Étienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali.
Ce qui est sûr, la mise en œuvre de l'accord aujourd'hui est en marche. Est-ce qu'elle permettra au Mali de retrouver toute la paix? C'est là toute la question. Il ne faut pas oublier également que l'accord, au-delà de son caractère non inclusif, il y a les raisons profondes aujourd'hui de la crise qui n'ont toujours pas été débattues et qui, on l'espère, le seront lors de la prochaine conférence d'entente nationale. Donc il y a aujourd'hui un ensemble d'éléments qu'il faudra prendre en compte pour se dire si oui ou non la paix est en marche aujourd'hui dans notre pays. Ces questions-là doivent être appuyées par le retour de l'administration au nord, ça doit être appuyé par le retour des réfugiés, mais surtout le retour de l'armée nationale au-delà du mécanisme opérationnel qui est le MOC, que l'armée retrouve toute sa place au nord dans la sécurisation du nord. Cela nous permettrait de dire enfin que le Mali est sur la voie de la réconciliation, le Mali est sur la voie de la paix.
Alors, il semble qu'il y a des résistances dans d'autres régions, notamment à Tombouctou et à Gao. Quelles peuvent être les raisons de ces résistances-là?
C'est surtout le choix des personnes qui, d'après certains, n'a pas été le plus inclusif qu'on l'aurait souhaité. Des personnes qui, à un moment de l'histoire de notre pays, ont trempé dans des histoires d'exaction et qui, aujourd'hui, font les frais de cela. Il y a, d'autre part, également la mauvaise foi d'une partie des groupes armés qui aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que le processus de paix soit en marche parce qu'on le sait, au nord de notre pays, il n'y a pas que des revendications politiques. Il y a une guerre aujourd'hui pour la maîtrise des routes de drogue, pour la maîtrise des chemins qui mènent au trafic de drogue. Donc il y a toute cette pesanteur-là aussi qui rentre en compte. Donc d'une part, il y a le choix des personnes qui posent problème, mais il y a aussi la mauvaise foi d'une partie des groupes armés qui fait que le processus de paix n'arrive pas à atteindre la vitesse de croisière qu'on souhaite.
Alors après l'installation des autorités intérimaires, quelle est la prochaine étape?
La prochaine étape, bien entendu, c'est de permettre aux autorités intérimaires de jouer pleinement leur rôle. Je vous parlais tantôt du retour de l'administration, du retour des réfugiés et du retour des FAMA sur le nord de notre pays. C'est cela le défi, moi, de mon point de vue. et que les populations, au-delà des discours politiques, se sentent véritablement sécurisées parce que le défi sécuritaire reste encore quelque chose de très criant dans le nord de notre pays. Donc la prochaine étape, moi de mon point de vue, c'est de nous permettre de faire l'évaluation de cette avancée politique que nous venons de faire. Parce que mine de rien, la symbolique du flottement du drapeau national sur le nord de notre pays n'est pas à négliger après 3 années de pluie.
C'était le docteur Étienne Fakaba Sissoko, directeur du Centre de recherche d'analyse politique, économique et sociale du Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24 heures sur 24.
Ici aux États-Unis, après l'annonce de l'expulsion de plus de 130 sans-papiers sénégalais, notre confrère Dame Babou discute avec Idriss Fall de l'atmosphère qui prévaut à Little Sénégal, un quartier au cœur d'Harlem à New York, où M. Babou réside depuis des décennies.
C'est vrai qu'il y a une certaine nervosité, mais c'est pas aussi intense. La présentation de l'affaire n'est pas nécessairement la réalité quand on est sur place, parce que premièrement, les Sénégalais qui sont expulsés ou qui sont en voie d'être expulsés, ce n'est pas Donald Trump pour commencer. C'était des gens qui étaient déjà dans les procès de déportation durant la présence du président Obama. Deuxième chose, c'est qu'il y a quand même des atténuations qu'il faut apporter. Les mesures prises par Donald Trump visent essentiellement encore les gens qui ont des dossiers judiciaires, qui ont mal à partir avec la justice dans d'autres domaines, pas simplement le fait d'être là sans avoir les papiers. Mais malgré tout, il y a vraiment de la nervosité. Les gens savent comment ça se passe, mais il est arrivé quelques incidents où on vient prendre quelqu'un qui était en voie de déportation et on trouve quelqu'un d'autre qui n'a pas de papier. Ça arrive, mais ça arrive rarement, ce qui apporte une certaine nervosité.
Qui ont mal à partir avec la justice, est-ce que c'est des gens qui ont forcément commis des crimes et des crimes graves ou bien...
C'était effectivement des infractions sérieuses ou des crimes ou des délits sérieux. L'administration Obama retenait comme des motifs de déportation, mais maintenant, le nouveau président Donald Trump est allé beaucoup plus loin. Par exemple, les gens qui ont été pris dans les rues en train de vendre de la marchandise, ce qu'on appelle les fakes ici, de la contrefaçon et autres, on a l'impression qu'ils font partie de ces gens-là. Parce que du temps du président Obama, on disait les gens qui ont été trouvés coupables d'eux. Cette fois-ci, ils disent même des gens accusés d'eux. Cela veut dire que si quelqu'un est accusé de faire de la contrefaçon, de commettre un petit forfait, une petite infraction, là, il y a des risques de faire partie de la liste qui est recherchée.
Comme New York, c'est la ville où il y a le plus de vendeurs de rue sénégalais, donc j'imagine que beaucoup d'entre eux sont partis se terrer quelque part maintenant.
Il y a qui continuent à vendre dans la rue, parce que simplement, ils ne vendent pas nécessairement de la contrefaçon. Mais effectivement, ça va avoir un impact sérieux sur le nerf et même aller maintenant travailler, vendre au milieu de la rue, ça peut être un problème. Et ils y ajoutent aussi ce qu'ils appellent les checkpoints maintenant. L'immigration a commencé à faire ce qu'on ne voyait pas depuis très longtemps. Dans des grands boulevards très fréquentés, ils commencent de temps en temps maintenant à arrêter les gens dans la rue et à demander des papiers. Maintenant, le problème, c'est surtout comment organiser l'information pour que ces détails-là soient bien perçus par les Sénégalais qui sont ici et les autres Africains, on peut dire.
Est-ce que le maire Bill Blasio, qui est démocrate, est-ce qu'il a une marge de manœuvre pour s'opposer à ces nouvelles mesures?
Ah non, non, depuis hier, il a dit clairement, son commissaire principal a dit clairement que dans le nouveau décret de Donald Trump, on demande aux polices locales d'assister le service de l'immigration et d'arrêter des gens qui n'ont pas de papier, ou bien quand ils arrêtent quelqu'un, de donner l'information au service de l'immigration. Mais le maire de New York, continuant la tradition de ses prédécesseurs, a dit absolument non. Vous ne pouvez pas compter sur nous et aucun policier new-yorkais ne se mettra à faire le travail des agents de l'immigration. Ça, c'est au moins clair. Et puis, il y a aussi un arrêté de maire Koch il y a longtemps, un fonctionnaire de la commune de New York qui donne des informations à l'immigration sur, ou bien qui pose même des questions à quelqu'un sur son statut d'immigrant, il sera licencié aussi simplement que ça. La commune refuse de coopérer et refuse absolument de coopérer.
C'était de New York, notre confrère Dame Babou.
Dans Washington Forum ce jeudi, Cameroun, le malaise anglophone. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester. Internet coupé et l'arrestation de 3 leaders de la contestation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la minorité linguistique s'estime lésée. Que veulent les Camerounais anglophones? Le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.